La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Tout au long de cette année 2020 qui s'achève, le SARS-CoV-2 s'est révélé à la fois un prisme puissant et un vertigineux accélérateur. À celles et ceux qui ont pour passion et parfois pour profession de penser le monde, il aura servi, et c'est loin d'être fini, à mieux expliquer comme à mieux comprendre. Mieux expliquer et partager ce qu'il ou elle savait déjà, tant le cas Covid, ce fait social total, offre d'inépuisables ressources pédagogiques. Mais aussi mieux comprendre ce qui, pour les chercheuses et les chercheurs, comme pour les artistes d'ailleurs, ne faisait jusqu'alors que s'esquisser sous forme d'hypothèses, parfois même hasardeuses ou d'horizons mal définis. Prendre au sérieux les vertus heuristiques du virus ne nous aura pas seulement permis de nous consoler d'une vie désormais en partie dégradée, mais surtout, et c'est autrement décisif, de prendre toute la mesure du kairos, pour parler comme François Hartog, que je vous proposerai de réentendre samedi prochain. De prendre donc toute la mesure de l'instant, non pas celui d'une simple crise sanitaire, aussi sévère, massive et globale soit-elle, mais celui d'un dramatique basculement anthropocène déjà entamé depuis plusieurs siècles. Ce n'est pourtant pas l'histoire et le théâtre que j'ai choisi de convoquer aujourd'hui, mais la géographie et la chorégraphie, deux disciplines susceptibles de mieux éclairer ce que le virus fait à nos corps sociaux et individuels. Michel Lussault et Franck Micheletti sont cette semaine les invités de la suite dans les idées. La chorégraphie avec Franck Micheletti, ce sera pour la deuxième partie de l'émission. La première est consacrée à la géographie avec vous, Michel Lussault.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Bonjour Michel Lussault, vous êtes géographe, vous êtes professeur de géographie à l'École normale supérieure de Lyon. Vous dirigez à Lyon l'école urbaine et vous publiez aux éditions 205, qui sont également des éditions lyonnaises, chroniques de géo virale. Ces chroniques, ce sont celles que vous avez tenues pendant ce qu'on appelle désormais le premier confinement, que vous avez tenues en vidéo, que vous avez diffusé à travers la page de l'école urbaine de Lyon sur une plateforme et que vous avez en partie retravaillé pour en faire un livre. Alors, c'est pas nouveau que la géographie s'intéresse aux pathogènes. Vous le remarquez d'emblée. Vous-même d'ailleurs, en 2007, vous aviez fait la part belle à un précédent coronavirus, au point que certains vous avaient fait remarquer que vous exagériez un peu.
Oui, tout à fait. J'avais étudié dans un livre publié en 2007 la première épidémie de SRAS et j'avais proposé de considérer que déjà à l'époque, on pouvait analyser la pandémie de SRAS sous l'angle de la compréhension de la mondialisation en cours. Et j'avais essayé de montrer que le SRAS pouvait être considéré comme un acteur spatial, un opérateur spatial, et que cela traduisait un certain nombre de tendances du monde contemporain. On avait trouvé que j'exagérais un peu, effectivement, et j'ai l'impression que la pandémie que nous continuons de vivre montre à quel point cette intuition était juste, mais aussi montre à quel point que depuis 2002, la mondialisation s'est amplifiée, parce que l'ampleur de cette pandémie, c'est l'hypothèse des chroniques de Géovirale, c'est aussi une ampleur qui nous montre à quel point le monde est devenu de plus en plus mondial, si je puis dire, à quel point la planète a achevé sa mondialisation. Et le SRAS 2, pour moi, agit comme une sorte de vecteur qui permet de précipiter un peu les évolutions. Il faut entendre le mot précipiter au double sens du terme, un peu comme la chimie et un peu comme le mouvement. Ça accélère des évolutions et puis ça permet de précipiter dans l'éprouvette quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant.
Alors c'est pour ça que je distinguais, je dirais, le volet enseignement et le volet recherche en quelque sorte, parce que ce cas d'école qui est la crise sanitaire de la Covid-19 permet à des chercheurs comme vous, par exemple, de faire travailler des recherches antérieures, de montrer au fond que des concepts que vous aviez mis au point, comme celui d'hyperlieu, comme celui de monde avec un M majuscule, fonctionnent bien. Et vous avez là toute une série d'exemples qui viennent au fond actualiser des recherches antérieures. Ça, c'est un premier plan, on va y revenir. Mais il y a un deuxième plan qui est le volet recherche, en quelque sorte, parce que cette crise, comme vous le dites, précipite des choses et produit des choses nouvelles sur lesquelles, par définition, vous n'avez pas, vous les chercheurs, vous Michel Lusson en particulier, évidemment, eu le temps de mener encore des enquêtes, des recherches. Mais néanmoins, vous pouvez formuler des hypothèses par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est ce qui rend cette crise particulièrement intéressante, cette impression qu'elle nous donne de précipiter, d'accélérer des mutations que vous aviez déjà commencé de repérer. Et en voyant peut-être des signes nouveaux liés aux conséquences des faits qui se trouvent par là même accélérés, Michel Lusson.
Oui, c'est là où il faut revenir donc à cette double acception de précipiter. Ça accélère et ça révèle. Dans le premier confinement, comme d'ailleurs dans la période que nous vivons à l'heure actuelle, je crois que nous sommes nombreux à avoir compris que ce que nous vivions pouvait être transformé en expérience de pensée, en expérience scientifique, en manière de mieux comprendre les réalités sociales. Mais dans une certaine mesure, Sylvain Bourmeau, c'est aussi ce qui se passe dans le domaine de la virologie, par exemple, ou dans le domaine du traitement des maladies pulmonaires ou infectieuses. Donc saisissons-nous de l'opportunité de la pandémie pour ne pas confiner idiot, comme je le disais dans ces chroniques en vidéo, et pour essayer d'en faire un support d'amélioration de nos connaissances. Et si on prend au sérieux cette idée, faisons de la pandémie une expérience de pensée, alors on voit effectivement que ça nous permet de valider un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, ça valide l'hypothèse que le monde est un système, un ensemble d'interdépendances entre des parties qui sont désormais toujours en relation, quoi qu'il arrive, et le virus a profité de ce foisonnement d'interdépendances. Et puis ça nous permet de faire des hypothèses, par exemple l'hypothèse que je fais en fin de chronique dans un texte que je rajoute, que nous vivons à travers cette pandémie ce que j'appelle un fait anthropocène total, c'est-à-dire qu'en quelque sorte la pandémie nous montre, nous confirme que nous sommes déjà entrés dans l'anthropocène et nous indique peut-être des lignes de réflexion, des programmes de recherche pour les prochaines années. Par exemple, comment mieux penser notre relation sociale, nous humains, avec les non-humains et aussi avec ces non-humains un peu embarrassants que sont les pathogènes. Eh bien voilà une matière à penser que nous pouvons essayer de commencer d'appréhender à partir de cette pandémie.
Avant d'entrer plus dans le détail sur la manière dont vous avez fait travailler des concepts pour comprendre ce qui se passe et pour saisir aussi ces évolutions et ces accélérations, Michel Lusson, je voudrais qu'on reste un instant sur un autre aspect qui est très important, puisque ce livre trouve son origine aussi dans cet effort de partage au fond de la connaissance scientifique, le fait que vous vous adressiez à un public en vidéo, sur une plateforme vidéo, n'est pas neutre, et d'ailleurs que vous appeliez aussi au débat, à la discussion. On sait que cette crise a été l'occasion pour beaucoup d'apprendre à regarder des tableaux statistiques, d'apprendre à mieux se familiariser avec ce qu'est la méthode ou ce que devrait être la méthode scientifique, de se rendre compte de ce que sont les controverses scientifiques, évidemment dans un monde qui est loin d'être parfait, dans la mesure où précisément les informations nous parviennent désormais de manière déstructurée, sur des réseaux sociaux non hiérarchisés. Tout ça aussi, peut-être un certain nombre d'entre nous en avons pris davantage encore la mesure. Et je voudrais peut-être que vous expliquiez ce choix qui a été le vôtre de à la fois entamer des recherches nouvelles, mais aussi prendre le temps d'expliquer à un public plus large votre démarche.
Oui, c'est très important. Je trouve que cette pandémie, elle a une valeur didactique dans une certaine mesure. Et évidemment, là, je reviens à ce qui est l'essence de mon métier. Je suis enseignant, chercheur, et je ne peux concevoir de construire une recherche si je ne prends pas d'abord la parole. Alors en général, la parole, je la prends devant mes étudiants, j'enseigne, je lance des idées, je réfléchis à des cours, j'engage une relation avec des étudiants, et pendant le premier confinement, ça n'était plus possible de la même façon. Donc je décide d'utiliser une plateforme de vidéo pour prendre la parole, pour partager cette parole et pour en faire une incitation à une expérience collective de pensée et une incitation au débat et à la dispute. Parce que je pense que c'est ce que nous avons à faire, nous, universitaires. C'est-à-dire peut-être commencer par partager nos perplexités. Parce que comme tout le monde, même si, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, les virus m'intéressent depuis longtemps, j'ai quand même été troublé, saisi, bousculé par ce confinement et par la rapidité, la cinétique, comme je le dis, de cette pandémie incomparable. Nous vivons là un événement que nous n'avons jamais éprouvé à l'échelle planétaire auparavant. Nous vivons là un événement premier, un commencement, quelque chose qui n'a jamais été constaté auparavant. Donc je suis un peu troublé, un peu dérangé, et je décide d'utiliser les vidéos pour partager moins les certitudes que les interrogations, pour essayer petit à petit de problématiser cette pandémie et de la problématiser à plusieurs échelles. Qu'est-ce qu'elle nous dit du monde? Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'expérience du confinement? Qu'est-ce qu'elle nous dit de la peine, de la difficulté, voire du malaise, voire de la souffrance que nous éprouvons à être privés des relations en public, hein, comme disait Goffman. Qu'est-ce que nous dit ce confinement de l'urbanité? Donc j'essaye de problématiser, donc de passer, si vous voulez, d'un état un peu de stupéfaction, de sidération, à un état de problématisation, et le partager avec mes étudiants, avec mes collègues, avec le plus grand nombre, parce que je pense que le rôle des universitaires, c'est aussi ça. Et je termine par un livre qui est, comme vous le signalez, Sylvain Bourmeau, un livre à la fois de chercheurs, d'enseignants, mais aussi un livre d'intervention, en quelque sorte, de prise de position dans le débat public. Et aussi d'ailleurs parce que j'étais un peu agacé de voir qu'en France et ailleurs, lorsqu'il s'est agi de discuter de la pandémie, on a convoqué, et c'est bien normal, les virologues, les épidémiologues, les médecins, mais finalement, on n'a pas songé à demander aux sciences sociales ce qu'elles pouvaient apporter de compréhension, de problématisation de la situation. Et je fais l'hypothèse que si on nous avait demandé plus, eh bien peut-être que nous aurions géré différemment la pandémie.
Alors heureusement, les chercheurs et les chercheuses se sont auto-saisis en quelque sorte et ont produit un nombre important de textes passionnants sur ce qui est en train de nous arriver. C'est le cas de la géographie et pour une raison simple que je voudrais rappeler en vous citant dans la chronique 9, il y en a 10 dans ce volume suivi d'une conclusion, d'une apostille. Dans la chronique 9, vous dites... Michel Dussault, le virus est en lui-même contraint à exister en se déplaçant, son agentivité s'avère donc 100% géographique, s'il ne bouge pas, il disparaît, et c'est cela qui explique que lutter contre lui oblige à des réponses elles aussi géographiques, le confinement, la distanciation entre les humains qui risquent de se transmettre la maladie, l'arrêt des mobilités, la quarantaine. Cette qualité géographique du virus, elle n'a pas forcément été aperçue par tout le monde, à commencer par ceux effectivement qui étaient en situation de gérer la crise.
Oui, bien sûr, mais là, ça renvoie peut-être à une question plus profonde, mais que nous n'aborderons pas aujourd'hui, qui est le manque de culture géographique de la plupart de ceux qui analysent, y compris le social, je ne parle même pas des acteurs politiques, alors que pour un géographe, il est flagrant qu'un pathogène est une agence géographique, est un actant, un opérateur géographique. Et pour le virus, c'est particulièrement évident, puisque le virus a besoin d'un véhicule, un corps, pour se reproduire et pour se déplacer vers un autre corps. Et pour ça, il utilise donc le corps infecté et il va ensuite utiliser des navettes, si je puis dire. Hein, le corps infecté va devenir en quelque sorte sa gare, son terminal, et il va utiliser des navettes que sont les gouttelettes de salive ou les plus fines gouttelettes encore qu'on trouve dans les aérosols que nous exhalons lorsque nous parlons, nous chantons et nous respirons. Donc on peut penser la pandémie en termes de géographie des mobilités. hein, de géographie de mobilité d'un agent non humain, un pathogène, qui n'existe pas sans infecter un corps et sans trouver un moyen ensuite d'infecter d'autres corps. Donc l'être humain est le véhicule principal du virus, et donc le virus, que fait-il? Eh bien, il va suivre les mouvements des êtres humains dans le monde contemporain. Et c'est là où on reprend contact avec le monde contemporain et où on comprend que la cinétique de la pandémie et son exhaustivité géographique, le fait que le virus circule très vite et très loin, hein, il se mondialise en très très peu de temps, en quelques semaines, eh bien on comprend que tout cela révèle tout simplement l'ampleur de ce que j'appelle depuis maintenant une quinzaine d'années la mobilisation générale du monde contemporain. Le monde contemporain est caractérisé par le fait que tout et tout le monde bouge tout le temps et partout. Et donc le virus, eh bien il suit les lignes aériennes, il suit les grandes lignes de transport, il suit les grandes lignes de flux touristiques, et on va le retrouver en grappe, en cluster, dans tous les hyperlieux du monde contemporain, c'est-à-dire ces points d'entrecroisement des lignes de mobilité et des connexions. Donc, dans une certaine mesure, pour un géographe, la pandémie n'est pas surprenante. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est surprenante pour un individu qui habite cette planète parce que elle nous confronte à un confinement qui est une souffrance pour un grand nombre de personnes. Mais pour un géographe, elle n'est pas surprenante. Elle confirme, au contraire, de manière expérimentale, si nous avons vécu une expérimentation à l'échelle 1 de la planète, elle confirme la justesse de l'analyse de la géographie sur le monde contemporain, le monde qui se construit en raison même de l'urbanisation, et cette urbanisation qui s'appuie notamment sur les systèmes de mobilité et de connexion qui sont indispensables aujourd'hui au fonctionnement du monde. Et d'ailleurs, quand on se met en confinement et en quarantaine, que se passe-t-il? Eh bien, tout s'arrête. Les aéroports se ferment, les centres commerciaux se vident, les grands lieux touristiques sont abandonnés, tout s'arrête, la mobilité s'arrête, et que se passe-t-il? Eh bien, le virus ne se diffuse plus. Donc, c'est 100% géographique, c'est un acteur géographique majeur qui révèle les tendances géographiques du monde contemporain.
Quand vous dites urbanisation, Michel Lussault, il ne faut pas se tromper, ça ne renvoie pas simplement aux villes, aux paysages urbains tels qu'on les appelle. L'urbanisation, c'est par exemple l'un de ces hyperlieux les plus visibles au début de la pandémie, ces bateaux de croisière sur lesquels des gens ont été pris à vivre avec celui que vous appelez le quasi-personnage du virus. Au fond, un bateau de croisière qui ressemble un peu à un immeuble de 10 étages, même s'il est au milieu d'un océan, c'est un point urbain.
Oui, bien sûr, un bateau de croisière, c'est un microcosme du monde contemporain. Il faut entendre là le mot microcosme au sens étymologique du terme. Foucault aurait sans doute appelé ça une hétérotopie, mais je préfère employer le mot microcosme. Et c'est donc un microcosme du monde contemporain où on va retrouver toutes les logiques de l'urbanisation contemporaine. Et je crois qu'on commet une erreur très souvent lorsqu'on aborde l'urbanisation simplement en des termes démographiques, même si c'est évidemment important que 60% ou 57% de la population du globe habite aujourd'hui dans des ensembles statistiquement urbains. On la réduit trop souvent aussi à des observations paysagiques ou géographiques en mesurant l'artificialisation des sols, le bouleversement des espaces et des paysages, alors que l'urbanisation, c'est aussi un bouleversement des formes de vie. Hein, pour reprendre ce concept que j'ai retravaillé à partir de Wittgenstein, des formes de vie, c'est-à-dire nos manières de cohabiter. Ce qui explique que on est urbain même lorsqu'on habite, par exemple, à la frontière ou à la lisière de la forêt amazonienne et qu'on défriche cette forêt pour y implanter des plantations de soja. On est urbain même lorsqu'on est dans des zones qui ne sont pas paysagèrement et démographiquement considérées comme urbaines. Donc on est urbain quand on est dans un aéroplane, mais on est urbain aussi quand on est dans un bateau de croisière qui est la quintessence de ce que l'urbanisation a produit, c'est-à-dire aussi une mise en tourisme généralisé de tout point et de tout lieu du monde. Et donc là aussi, le virus nous permet d'affiner notre compréhension de l'urbanisation, qui est un phénomène englobant, et la mondialisation est un phénomène englobant parce que l'urbanisation elle-même, c'est ce bouleversement, cette révolution des formes de vie que nous connaissons en particulier depuis une cinquantaine d'années, avec une accélération dans les 25 dernières années, puisque dans ce livre, j'essaye de montrer aussi que la systématisation de l'urbanisation est beaucoup plus forte depuis les années 90.
Ce que ce virus nous a permis aussi d'affiner, Michel Lussault, c'est les jeux d'échelle qui sont typiquement des jeux de géographes. Et vous dites que ce virus a une autre caractéristique qui est son hyperscalarité.
Oui, prenons les choses de façon simple, Sylvain Bourmeau. L'échelle du virus, c'est l'échelle d'une toute petite entité vivante. C'est une échelle qui est même plus que microscopique. Donc l'échelle du virus, c'est cette échelle-là et c'est l'échelle du corps qui l'infecte. Et à l'autre bout de la chaîne, nous nous apercevons que l'échelle de la pandémie, c'est la planète Terre tout entière. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une sorte d'incommensurabilité, vous voyez, entre l'événement initial, l'infection du patient zéro, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la poursuite depuis 9 mois d'une pandémie mondiale qui bouleverse toutes les économies, toutes les sociétés, toutes les manières de comprendre le monde contemporain. Et cette incommensurabilité, elle ne s'explique que parce que nous sommes dans un système. Donc le virus n'agit pas dans un système de causalité linéaire, pardon d'être un peu technique et jargonnant, c'est-à-dire il n'y a pas un effet de domino, si vous voulez, à partir de l'infection initiale jusqu'à la paralysie du monde. Il y a plutôt l'enclenchement de ce que les systémiciens appellent des boucles de rétroaction. Hein. Et donc finalement, ce que nous vivons, c'est une émergence systémique qui est tout à fait étonnante. Et dans le cadre de cette émergence systémique, eh bien, on constate que toutes les échelles fonctionnent en même temps. C'est-à-dire que le propre de la pandémie, c'est de mettre en relation des espaces et de temps, des espaces et des temps qui sont de métriques, qui sont de grandeur et qui sont de logiques très différentes. Cette pandémie met en relation l'espace-temps de la planète et l'espace-temps du virus. L'espace-temps de la planète, l'espace-temps du virus, mais aussi l'espace-temps du corps de chaque individu engagé dans son expérience biographique, mais aussi l'espace-temps de chaque métropole paralysée ou contrainte par la pandémie, mais aussi l'espace-temps de chaque pays devant définir sa politique de confinement. Donc c'est ça l'hyperscalarité, c'est le télescopage permanent des tailles d'espace et des, j'allais dire aussi des types de temps, parce que comme je le dis dans ce texte, le virus a aussi comme caractéristique qu'il synchronise des temps très différents. Hein, le temps du virus n'est pas le même temps que celui de la planète. Et pourtant, dans la pandémie, ces deux temporalités sont synchronisées et des espaces de taille très différents sont, comme disent les géographes, synchorisés. Hein, la synchorisation étant l'équivalent spatial de la synchronisation. La synchronisation ajuste des temps, la synchorisation ajuste des espaces. Eh bien, c'est ce que nous vivons dans cette pandémie et les géographes peuvent, je pense, contribuer à l'expliquer.
Alors, urbanisation d'abord, ensuite systématicité de ces relations. C'est deux des leçons que vous tirez de ces chroniques de Géoviral dans la postille qui vient conclure le livre, Michel Lussault. Mais il y en a une troisième dont on n'a pas parlé encore. C'est la question du changement global, de la condition anthropocène qui désormais nous traverse. Et évidemment, ce virus nous a permis d'en prendre encore davantage la mesure.
Oui, ce virus est un fait anthropocène total, cette pandémie, pardon, est un fait anthropocène total pour trois raisons. D'abord, il est à peu près aujourd'hui évident pour beaucoup d'analystes la destruction des écosystèmes, la fragilisation des écosystèmes que nous observons de plus en plus et qui est une fragilisation liée à l'impact des activités urbaines, humaines, urbaines sur les systèmes biophysiques, cette fragilisation des écosystèmes est pour beaucoup dans l'apparition de nouveaux pathogènes qui franchissent les barrières d'espèces et nous savons que nous allons être exposés de plus en plus souvent, nous les humains, à la fois à des épizooties, donc des épisodes de pathogènes animaux, mais aussi à des épidémies de plus en plus fréquentes. Et nous savons donc qu'il s'agit sans aucun doute de quelque chose qui participe de ce dérèglement des écosystèmes et de tous les systèmes biophysiques en raison de l'impact de nos activités. Donc, premier élément qui fait de cette pandémie un fait anthropocène. Deuxième élément, comme nous venons de le dire, donc je n'y reviens pas trop longtemps, cette pandémie s'explique par le fait que le monde est urbanisé. C'est-à-dire, cette pandémie s'explique par le fait que le système monde est un système monde urbanisé, l'urbanisation est mondialisée, mondialisante. Or, je pense que l'origine du changement global est à chercher dans l'accélération de l'urbanisation depuis les années 1950. Il y a une théorie aujourd'hui très intéressante dans le domaine des sciences anthropocènes, qui est la théorie de la grande accélération, qui estime qu'à partir des années 50, il y a une accélération très forte de la dégradation des conditions environnementales. Eh bien, je montre dans mes travaux et dans certains travaux qui seront bientôt publiés, que cette accélération de la dégradation des environnements biophysiques, elle est directement liée à l'urbanisation. Et puis, troisième dimension du caractère anthropocène de cette pandémie, cette pandémie nous montre aussi que nous sommes en réalité vulnérables. Ce que je trouve très frappant dans ce que nous vivons, et c'est un thème, vous le savez, Sylvain Beaumont, que je développe depuis un livre qui s'appelle « L'avènement du monde », qui a été publié en 2013, eh bien, nous sommes aujourd'hui frappés de constater que nos puissances sont vulnérables. Les édifices de puissance que la mondialisation avait constitués, à la fin de l'année 2019, on voyait se succéder les communiqués vainqueurs des grandes entreprises aériennes, des grandes entreprises économiques, des grands centres commerciaux. Jamais il n'avait semblé que la prospérité était si forte. Jamais il n'y avait eu de projections aussi intéressantes en matière de développement économique. On avait l'impression que la mondialisation urbaine avait constitué une planète Terre de plus en plus puissante. Eh bien, cette puissance s'est effondrée en quelques semaines. Donc la pandémie, en réalité, nous permet de prendre conscience de notre vulnérabilité. Et moi, ce que je propose dans ce livre, c'est de dire, et si nous partions de cette vulnérabilité, qui est la vulnérabilité des individus, la vulnérabilité des sociétés, la vulnérabilité des organisations urbaines, la vulnérabilité du monde, et si nous partions de cette vulnérabilité pour proposer une autre politique du monde, qui soit aussi une politique du monde qui fonctionne à toutes les échelles.
De la géographie, nous basculerons vers la chorégraphie et plutôt vers un dialogue entre ces deux disciplines dans la seconde partie puisque Franck Micheletti nous rejoindra. Mais c'est après un extrait de l'album solo live qu'a enregistré Nick Cave à Alexandra Palace de Londres. Un album qui restera aussi comme une trace de cette drôle d'année. Enregistrer un disque sans public dans un lieu de concert, c'est The Ship Song.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, a baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me, let your hair hang down. You are a little mystery to me, every time you come around here. We talk about it all night long. We define our moral ground, but when I crawl into your arms, well, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges down. Make a little history, baby, every time you come around here. Your face is fallen, sad now. Yet for you know that the time is nigh. Yeah, when I must remove your wings,
Chronique de Géoviral, c'est le titre du livre de Michel Lussault dont nous parlons aujourd'hui avec l'auteur. Je précise, je l'ai oublié dans la première partie, que ce livre est accompagné d'une couverture qu'il se déplie et qui permet de contempler un dessin signé Lou Herman, qui est une sorte de traduction graphique du livre. Expérience de pensée, là aussi, intéressante, à travers le dessin. Autre expérience de pensée, le dialogue avec la géographie, ou plutôt la corpo-géographie. Je crois que c'est comme ça que vous appelez votre pratique, Franck Micheletti.
Oui, bonjour, Sylvain Bonmot.
Bonjour, vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe, vous êtes l'animateur de Kubilai Khan Investigations depuis longtemps, ou Investigation, je ne sais pas comment on dit pour vous, et vous organisez aussi ce festival Constellation dans la rade de Toulon, et je crois depuis longtemps vous vous intéressez à des questions qui relèvent également de la géographie.
Oui, alors j'ai eu la chance avec ma compagnie de pouvoir travailler très régulièrement à l'étranger, pas seulement avec des diffusions, hein, avec des créations et des circulations de pièces, mais de faire des terrains. D'ailleurs, c'est marrant parce que en partie les artistes ont un vocabulaire commun aux chercheurs, donc on parle parfois de terrain, de chantier, de laboratoire, d'essai. Et donc pendant ces périodes où pendant quelques semaines voire quelques mois, je me retrouvais ou sur le continent africain ou en Asie ou en Amérique latine, ben voilà, je me suis rapproché de cette détermination très importante, c'est savoir comment les espaces déterminent nos existences et ce qui se passe aussi dans nos corps. Donc c'est ce goût-là aussi qui m'a incité à me rapprocher et à lire dans un premier temps les travaux de Michel Lussault. Donc la première fois que je l'ai vu, c'était d'ailleurs à Beaubourg, où il faisait une espèce de visite guidée pour déterminer si Beaubourg était un hyperlieu. Et ensuite, ça m'a donné l'idée de l'inviter à mon festival Constellation, donc à Toulon, pour qu'il fasse une balade sur les sentiers littoraux et qu'il justement dévise sur les bateaux de croisière et aussi qu'est-ce que ça voulait dire vivre près d'un littoral, être une ville portuaire, voilà les enjeux aussi qui se passent en ce moment en Méditerranée. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait dire tiens, géographe, chorégraphe, c'est quoi ces présences parallèles? Comment ils pourraient se raconter des choses? Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de traits communs. Enfin, je pense aussi qu'on est des observateurs, justement, des phénomènes spatiaux. On sait que nous sommes des animaux spatiaux, hein, et sociaux, et que nous sommes, voilà, très déterminés par ce que nous avons sous les pieds, hein, par les phénomènes de mobilité. Voilà.
Michel Lussault, vous êtes un géographe observateur. Vous avez cité tout à l'heure Irving Goffman. Vous vous inscrivez dans cette lignée. Par exemple, quand vous travaillez sur ce que vous avez appelé la lutte des places, vous regardez comment des gens interagissent dans des espaces sociaux particuliers, qui peuvent être des halls d'entrée d'immeubles, par exemple. Donc, la chorégraphie, au sens très précis du terme, c'est un objet pour vous d'observation.
Oui, c'est un objet d'observation et c'est devenu petit à petit aussi un objet d'expérimentation et la scène plus globalement. C'est-à-dire que je pense que si l'on travaille sérieusement, on peut faire de la scène. Mais vous savez, la scène entendue au sens qui était celui de Peter Brook, hein. Il suffit de très peu de choses pour faire une scène. Il suffit peut-être parfois de tendre une ligne ou de dessiner un trait sur le sable pour qu'une scène existe, une scène où l'on crée un geste chorégraphique ou une expression artistique. Eh bien, je trouve que si l'on travaille bien, cette scène peut devenir un véritable laboratoire pour comprendre la dimension spatiale de nos vies individuelles et collectives. Et ce qui m'intéresse dans le travail avec Franck Micheletti, c'est que, en ce qui le concerne, c'est un chorégraphe qui, depuis longtemps, prend beaucoup de risques à justement inventer des scènes qui ne sont plus simplement les scènes des institutions, mais des scènes qui ne sont même pas forcément les scènes des places publiques habituelles, mais des scènes encore différentes, c'est-à-dire des guides de haut, des refuges de haute montagne, des paysages ouverts, des bidonvilles, des espaces où la vie urbaine se cristallise. Et il était normal qu'on se retrouve entre un géographe qui va regarder la scène et un chorégraphe qui va regarder l'espace urbain tel qu'il fonctionne au jour de jour. Et il était normal qu'on se retrouve autour de cette idée de réfléchir en commun à nos interspatialités. Qu'est-ce qui fait que nous, êtres humains, nous vivons dans le temps, mais nous vivons aussi avec l'espace, et cette vie avec l'espace est trop souvent, je trouve, oubliée par les sciences sociales, à l'exception justement de quelques auteurs comme Goffman, qui pour moi est une référence absolument fondamentale si l'on veut aborder ces choses-là.
Alors on l'a compris, les chroniques de Géoviral de Michel Lussault sont nées à la faveur du confinement, sont nées aussi du manque, de l'impossibilité à s'adresser soudainement à ses étudiants. Qu'en a-t-il été pour vous, Franck Micheletti, de ce confinement, de cette manière dont le corps, les corps, votre corps s'est trouvé replié dans un espace beaucoup plus réduit qu'à l'habitude? J'imagine que la question se pose de manière encore plus dramatique pour un chorégraphe et un danseur.
Ouais, bah, comme tout le monde, on ressort de cette crise sanitaire avec des corps un peu engourdis, voire anesthésiés, quoi. Trop fixés, trop vissés à des écrans, hein. Et avec un manque de contact physique très évident, quoi. Et, c'est pareil, il faut penser d'autres terrains. Donc, par exemple, un des projets que nous avons ensemble avec Michel, et on l'avait fait à l'école de l'Anthropocène l'année dernière, on prévoyait de le faire dans le temps fort de l'école urbaine qui va avoir lieu en janvier prochain, qui était un dance floor. Alors, pour moi, un dance floor, c'est un cercle social dynamique et en mouvement. C'est très inclusif, c'est intergénérationnel. Voilà, c'est comment par le corps, et par les sons, il y a une rencontre inédite entre des inconnus. Donc, ce dispositif est un peu mis à l'arrêt. Alors évidemment, on peut soulever tout un nombre de remarques pourquoi ces dispositifs sont à l'arrêt. Alors que bon, un chorégraphe, un danseur, c'est quelqu'un dont le rapport des distances, l'économie, le réglage entre les corps et les distances, on peut très très bien jouer et s'en acquitter. Donc, ces dance floors, on peut plus vraiment les faire. Alors donc, j'ai réfléchi à une autre forme, bon, qui est une petite conférence animée par des platines vinyles avec des images de clips et ce sont des musiques chroniques, c'est qui essayent de raconter. Par exemple, l'électronisation des musiques traditionnelles dans les sur le continent africain, dans les townships de Johannesburg ou du Nigeria ou du Ghana ou en Tanzanie, en Ouganda. Voilà, essayer de comprendre qu'il y a une génération de producteurs de musique qui sont africains, qui sont du continent, qui ont les outils et qui à partir de ces musiques et de ces danses, de l'interaction entre ces musiques et ces danses, habitent les territoires. Ce qui est aussi intéressant, c'est la circulation de ces musiques. Elle se fait pas nécessairement sur des ondes de radio, puisque les ondes de radio parfois trouvent que ces musiques elles sont trop subversive, et c'est dans les transports informels, en échangeant des clés USB, que ces musiques se diffusent dans l'attente de ces voyages, et c'est comme ça que les vibrations et les messages de ces musiques rentrent dans les corps, passent, et voilà, je suis très intéressé par ces
circulations.
Ce type de circulation, ces savoirs qui sont situés, ces actes de perception, ces signaux sensibles, voilà, qui se font autrement sur d'autres scènes, comme disait Michel. Il rappelait aussi que j'avais fait un projet, je suis en train de faire un projet en montagne, et une participation avec trois parcs nationaux régionaux hein, qui sont dans les Baronnies, dans le Vercors et dans les Bauges, donc associés à une anthropologue, et on va pendant trois mois essayer d'analyser les usages de ces cheminements, de ces itinéraires, les usages différenciés hein, de tout le monde, tous les rapports du vivant qui coexistent, qui cohabitent, et pas seulement ceux de nos humanités. Voilà, c'est vrai que je pense que aujourd'hui, la question de qu'est-ce que chorégraphier reste très 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 ouverte et être et peut être relancée par ce qui nous arrive en ce moment. Avec cette crise sanitaire.
Alors, ce qui nous arrive en ce moment, comme vous le faisiez remarquer, c'est qu'on passe beaucoup de temps devant des écrans, mais on n'en a pas dit un mot, Michel Lussault, c'est aussi une forme d'élargissement des espaces. Il y a quelques semaines, ici même, une autre géographe, Camille Schmoll, montrait comment, avant la pandémie, ces écrans, ceux des téléphones portables, étaient un moyen extraordinairement précieux pour des femmes exilées, retenues dans des camps en Italie, de continuer de voyager et d'établir des relations sociales qui vont leur permettre peut-être de trouver des solutions. Finalement, cette dimension numérique du monde aura été aussi l'une des grandes leçons de cette année 2020, Michel Lussault.
Oui, et là aussi, on retrouve cette idée que ça confirme et ça accélère. Ça confirme ce que nous étions en train de comprendre dans un courant de la géographie qu'on appelle la néo-géographie, donc qui s'intéresse à l'effet du numérique sur la vie spatiale des individus. Et on voit bien que le numérique augmente nos capacités spatiales, n'est-ce pas ? Le numérique, c'est de l'espace augmenté. Et là, nous le vivons tous les jours. Nous le vivons même en ce moment en organisant cette émission à distance dans un espace numérique qui vient augmenter notre espace de vie, mais qui ne le supprime pas. Vous êtes en studio dans un espace bien particulier à la maison de Radio France. Franck Michelletti est à Toulon, moi je suis à Lyon. Et on voit donc se synchroniser et se synchroniser des temps à travers cette technologie numérique qui augmente notre spatialité. Et puis la deuxième chose, et Franck vient de le signaler en essayant de décrire les dispositifs de portraits de ville sonores qu'il essaye de créer, et des portraits de ville aussi chorégraphiques avec des vidéos qui circulent en même temps qu'il trace le portrait sonore de cette ville, c'est que petit à petit, en raison même des contraintes de la pandémie, nous sommes en train d'inventer de nouvelles formes. D'inventer de nouvelles formes. Et moi, ce qui m'intéresse dans le travail avec un chorégraphe comme Franck Michelletti, c'est l'idée que chorégraphie et géographie peuvent peut-être là, de concert, essayer de produire une nouvelle intelligibilité d'un monde qui s'est beaucoup complexifié. La pandémie, en fait, elle a montré à tout le monde la complexité de notre monde et elle a sans doute ajouté une couche de complexité. Et de cela, il faut que nous en rendions compte.
Merci Michel Lussault. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Chroniques de Géovirale publiées aux éditions 205. Et merci à vous Franck Michelletti. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Attaché de production Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui Cindy Legrumelec. À la réalisation Marie Placé.